Radio Okapi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Benoît Loukounkou Sampou, célèbre journaliste qui a émerveillé les téléspectateurs dans les années 70, 80, 90, mais qui a disparu soudainement de la télévision. Il va nous dire le pourquoi dans cette émission. Nous allons retracer avec lui son parcours, lui qui a été un des grands animateurs des émissions des variétés musicales à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Monsieur Loukounkou, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, merci. Je profite de cette occasion pour saluer cette grande radio.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je l'ai dit, avec vous, nous allons parler de votre parcours professionnel, votre carrière au sein de la télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, vous n'êtes plus aux petits écrans, vous avez abandonné les micros pour vous lancer dans la diplomatie. Pourquoi ? Brièvement.
Eh bien, principalement pour raison de santé. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours aimé, et j'aime, j'adore ce métier de communication. Mais il fallait absolument à un moment donné lâcher prise parce que le métier m'avait finalement pressurisé.
Alors, on va parler de votre enfance. Vous êtes né où et quand ?
Je suis né à Mitouaba, au Katanga, le 23 juillet 1938. Je suis Lion.
Lion, c'est votre signe
zodiacal.
Voilà. Et c'est à Mitouaba où vous avez grandi, où vous avez passé votre enfance ?
Non, heureusement. Mon père était engagé dans une société minière, la Cermicat. Quand je suis venu au monde, j'étais son troisième enfant et le premier vivant. C'est-à-dire, devant moi, il y a eu un mari, une Marie et un Joseph. Qui sont partis. Alors, il a décidé d'aller dans la grande ville de Lubumbashi pour assurer mon éducation.
Vous avez étudié à Lubumbashi ?
J'ai étudié à Saint-Boniface, au collège Saint-Boniface.
Aujourd'hui, Kitumaine, je crois. Hein?
Oui, c'est ça. Au niveau de l'université, je pourrais dire que j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, comme un institut supérieur.
À Kinshasa, ici, ou à Lubumbashi ?
Ici, à Kinshasa. Et j'ai parfait ma formation en Europe à l'Institut belge d'information et de documentation.
Et là, c'est après avoir obtenu un diplôme à l'Académie de Beaux-Arts.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude aux humanités ?
De notre temps, il n'y avait pas de section. Globalement, on faisait les primaires, on faisait les secondaires ou les moyennes. Et ensuite, on travaillait. C'était avant l'indépendance. Donc, c'était pas la même structure qu'aujourd'hui.
Pourquoi avoir choisi de faire l'Académie des Beaux-Arts ?
Dans les Beaux-Arts, il y a une prédisposition naturelle. J'aimais dessiner et je dessinais bien à l'école. J'étais pratiquement le dessinateur de la classe.
Vous dessinez toujours bien maintenant ?
Oui, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Je dessine toujours, mais je ne fais plus des tableaux. Ce n'est plus ma priorité.
Mais vous pouvez faire un portrait de moi.
Absolument. Okay. Absolument. Je peux faire un portrait de moi.
Et donc, c'est pourquoi vous avez choisi de faire l'Académie des Beaux-Arts ? Encouragé par les parents ?
Encouragé par l'école surtout. À cette époque-là, on encourageait les jeunes à aller dans un sens où ils étaient plus ou moins ouverts. Mm-hmm. Et moi, c'était l'art, et les autorités de Saint-Boniface ont décidé de m'envoyer à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. J'ai fait la section peinture, publicité.
Parce que vous saviez que vous allez travailler dans la télévision plus tard ?
Non, simplement parce que je croyais que j'allais être un artiste indépendant.
Mais malheureusement,
vous
n'avez pas choisi ce chemin-là.
Non.
Vous êtes orienté plutôt vers la télévision.
Voilà. Il faut dire aussi que y a l'indépendance qui est intervenue entre-temps, en 1960. Et comme j'écrivais, j'avais une voix radiophonique, on m'a engagé 13 jours après l'indépendance, on m'a engagé à la radio.
Qui vous a engagé ?
Eh bien, il faut dire qu'il y a eu un heureux, je peux dire, une occasion de rencontrer un ancien journaliste, un grand journaliste qui fut ministre des Affaires étrangères au Katanga, M. Evariste Kimba, qui me connaissait plus ou moins bien et qui m'a guidé vers la radio. Il pensait que je pouvais travaillé à la radio. Bon, j'ai pris cette chance-là.
Sans formation, vous vous êtes lancé.
Et j'ai commencé ma formation sur place avec un très grand journaliste, Jean Sampeur, comme on l'appelait.
Un Belge,
qui m'a formé et qui m'a orienté pendant pratiquement 2 ans. À la suite, je suis entré dans une agence d'information filmée qui était une société correspondante à Fox Mulvihill de New York. Et là, j'ai fait mon apprentissage comme reporter caméraman. Et c'est à ce titre-là que j'ai pu aller à certaines conférences, dont la conférence de Coquillatville, qui regroupait tous les politiciens pour discuter, comme aujourd'hui encore, les destins du pays.
Du Congo.
Oui.
Et après la radio, vous avez faussé la presse écrite ou bien c'était au même moment?
Non, moi j'ai vraiment commencé, j'ai repris à zéro en allant travailler dans ce journal de M. Evariste Kimba à Lubumbashi, et j'ai commencé au marbre, je suis monté jusqu'à la rédaction. Ceci dit, entre 1958-59, j'ai fait la presse écrite, et en 60, 13 jours après l'indépendance, comme je vous le disais tout à l'heure,
Vous êtes allé à la radio. Je
suis à la radio, et à la radio nationale. D'abord, c'était la radio nationale katangaise, parce que le Katanga avait entre-temps proclamé son indépendance,
une sécession.
Et ensuite, redevenu radio nationale, j'y suis depuis 60.
Et vous êtes resté tout seul à Lubumbashi quand la télévision est redevenue nationale, ou bien vous êtes venu dans la capitale à Kinshasa?
Eh bien, écoutez, il y a eu énormément de problèmes au Katanga avec la sécession. On a dû fuir le Katanga. Moi qui n'étais pas originaire du Katanga, j'ai dû prendre mes clics et mes claques pour venir me réfugier à Kinshasa.
Vous étiez inquiété?
Oui.
J'étais inquiété
parce que les autorités katangaises me reprochaient d'avoir fait un reportage qui gênait selon
des amis. Un reportage sur quoi?
Ben, sur la guerre, la première guerre entre le Katanga et les forces de l'ONU. Et ces autorités estimaient que j'avais gêné leurs intérêts, et alors
il fallait
absolument quitter le Katanga, et aidé en cela par les troupes de l'ONU qui m'ont évacué, ma femme, mon frère et ma fille, pour Kinshasa.
Ah, vous étiez déjà marié à cette époque-là?
Oui.
Et père d'un enfant?
D'un enfant.
Vous en avez combien aujourd'hui?
J'ai 17 enfants.
Waouh, c'est une grande famille!
10 garçons et 7 filles.
Et 7 filles, des petits-enfants sûrement aussi.
43 petits-enfants.
Mais
et
c'est un clan?
Oui.
C'est le clan Lukunku.
Exactement. Et 5 arrière-petits-enfants. Arrière-arrière-petits-enfants.
Ah, mais c'est très bien ça. Et puis vous êtes très en forme là quand je vous vois. Toujours tiré à 4 épingles, comme à l'époque de la RTNC, comme vous voyez à la télévision. Toujours bien habillé, en blanc.
Oui, par politesse pour les téléspectateurs et par politesse pour le commun que l'on rencontre. On doit être bien, voilà, vous m'accueillez avec beaucoup de chaleur, peut-être parce que je suis habillé comme je le suis, et c'est une obligation professionnelle.
Obligation professionnelle?
Absolument.
Quand on travaille à la télévision?
Non seulement à la télévision, mais à la radio. Les deux sont liés. Les gens qui m'écoutent en ce moment, qui vous écoute, essaie de vous deviner.
Oui.
Alors, quand ils vous rencontrent, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure que vous avez suivi une formation de reporter caméraman.
Oui.
Donc, vous avez fait des reportages à travers le pays, à travers le monde aussi?
Je crois que je suis parmi les rares journalistes congolais qui ont fait le monde entier. J'ai assisté pratiquement à toutes les conférences qui concernaient mon pays, jusqu'à Madagascar, à la conférence de Madagascar. J'ai été en reportage partout. J'étais au Japon, comme j'étais aux États-Unis. Je ne parle pas de l'Europe. Je connais très bien mon pays, très bien. Je crois que c'est une condition importante pour faire.
Donc vous avez
travail.
Été dans toutes les 11 provinces?
Oui, dans toutes les 11 provinces. Mm-hmm. Je les connais toutes. J'ai
les 5 continents, vous avez été dans les 5 continents aussi?
Dans les 5 continents aussi. J'ai connu tous les présidents de la République. Kassavubu, pour commencer. Ensuite,
Mobutu.
Mobutu, Laurent Désiré, et maintenant, là, nous sommes sous la direction, la gérance de monsieur...
De Joseph Kabila. Quel est le souvenir que vous a le plus marqué pendant votre enfance? Pas souvenir professionnel et pendant que vous grandissiez?
Ben, c'est la proclamation de l'indépendance, d'abord. Ça, c'est une étape que je n'oublierai jamais parce qu'elle était émaillée de beaucoup de violence. Si on a dû quitter sa base, notre base qui était Lubumbashi, où nous sommes pratiquement des natifs. Tous les enfants de mon père sont nés à Lubumbashi. C'est parce qu'il y a eu violence et cette violence-là est restée et cette violence continue.
Ça, c'est
vraiment un grand souvenir. Le deuxième grand et mauvais souvenir. Et ensuite, j'étais présent lorsque l'OUA est née à Addis Abeba en 63.
Donc l'Organisation de l'Union Africaine. Oui. Vous avez couvert
J'ai couvert l'événement, d'abord avec les ministres des Affaires étrangères et ensuite avec les chefs d'État. Je garde un souvenir de cette manifestation politique sur le plan continental. Je suis resté 2 jours sans manger devant la table où devait se signer le livre.
Pourquoi vous n'aviez pas le temps d'aller manger?
Non, parce que à tout moment, on reportait la séance et ça durait 48 heures. Environ 48 heures, oui. Et il fallait rester là parce que sinon on perdait sa place et on perdait la signature de son chef de l'État.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Benoît Loukoukou?
Ben, je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je suis un homme de paix. Et c'est cela que j'enseigne à mes enfants, d'être le copain de tout le monde. Moi-même, je suis le copain de mes enfants. Uh-huh. J'adore mes enfants.
Le grand témoin.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Benoît Loukoukou Sampou, parmi les grands animateurs des émissions des variétés musicales que la RDC a connues pendant les années 70, 80, 90. Alors Benoît, on avait déjà commencé à parler de votre carrière professionnelle. Vous étiez dans le reportage, donc vous couvriez tout ce qui est reportage politique, je dirais.
Oui.
Mais comment vous
avez... Tous les reportages, y compris les sportifs. J'étais plusieurs fois dans les grandes rencontres sportives africaines. J'étais par exemple aussi au Sénégal, à Dakar, au premier festival des Arts Nègres. Donc, je couvrais tout.
Tous les reportages. Sauf la musique, sûrement.
À cette époque-là...
Vous n'étiez pas encore...
Non. J'ai dû commencer la musique avec M. Kayum Bibéa, qui était directeur des programmes à la télévision. Et moi, j'étais chef caméraman à la télévision. Il savait, je ne sais comment, que je faisais du théâtre.
Ah, parce que vous avez fait du théâtre.
Parce que j'ai fait du théâtre. Alors, il m'a découvert et il m'a demandé de le remplacer à l'émission Télé-Cabaret, la toute première émission de variété
musicale.
Que nous avons lancé d'ailleurs en présence du président de la République qui était venu inaugurer la télévision en novembre 66. C'est alors que j'ai vraiment commencé à m'intéresser au monde musical. Mais je connaissais déjà Franco, que j'avais rencontré à Coquilhatteville, à la conférence de Coquilhatteville. J'ai découvert par la suite les autres musiques.
Les autres, Taboulet, Grand Calais. Mais avec Franco, vous étiez quand même assez rapprochés.
Oui, cela s'est fait avec le temps. À un moment donné, il ne pouvait pas faire son émission avec quelqu'un d'autre. Il n'acceptait pas.
Pourquoi seulement avec vous? C'est la question que je vous pose.
Ben, c'est simplement parce que nous avions...
Il vous faisait confiance, il avait confiance en vous, confiance... il était à l'aise avec vous dans
absolument.
Les émissions.
Absolument, absolument, je ne l'épargnais pas, lui non plus ne m'épargnait pas, nous étions, nous finissions par un éclat de rire et toute la ville éclatait de rire. Et c'est ainsi que cette émission avec Franco avait pris une dimension un peu spéciale. Mais en dehors des plateaux de télévision, nous continuons à être des amis sincères. Il m'invitait très souvent chez lui. Nous nous rencontrions très souvent aussi. Et lorsque j'avais envie de faire une bonne émission axée sur un thème précis, je l'invitais, il venait, il ne refusait jamais. C'est ainsi que jusqu'au dernier jour, 2 mois avant sa mort, il acceptait que je...
C'était une très grande interview que vous avez réalisée avec Franco. On va en parler, Benoît Loukoumkou, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde musical?
Ben écoutez, il y a d'abord le fait que l'émission que présentait Kayumbi m'intéressait aussi, en ce sens que l'on rencontrait des artistes. J'aimais bien la musique, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Uh-huh. C'est à l'Académie des Beaux-Arts également que j'ai appris à jouer de la guitare. Donc, j'étais...
Vous êtes un artiste, je dirais.
Je peux dire, je suis un artiste. Parce que toute ma vie a été baignée par l'art.
Satisfait de votre passage pour présenter des émissions de variété musicale?
Donc, écoutez, les variétés musicales étaient, étaient comprises dans la grille des programmes. Tous les lundis à cette époque-là, on faisait une grande émission de variété à la télévision. C'était la fameuse émission Télé-Cabaret. C'est lui, Kayumbi, qui l'a présenté. J'ai dû le remplacer moins d'un an après la création de la télévision et je suis resté à cette émission jusqu'à la fin des années 90. Parce que je suis parti de l'information de la RTNC en 1996.
96.
Ouais. Alors, je suis resté pendant tout ce temps, donc de 1968, sur le plan de la musique de variété, jusqu'en
96.
Mm-hmm. Et de temps en temps, j'anime avec les autres certaines séquences. Comme maintenant, là, je suis venu dans le cadre d'une... cérémonie importante d'immortalisation de Franco. J'ai été invité par le gouvernement de la République.
Parce que vous étiez très lié à Franco quand vous a invité?
Non seulement parce que j'étais très lié à lui, mais parce que pratiquement toute son œuvre, c'est moi qui l'ai passée à la télévision.
À la télévision.
Tandis que d'autres l'ont fait du côté de la radio.
Et vous payez pour ça?
Pas du tout. Pas du tout, ça n'existait pas. C'est nous qui payons les artistes. Ce ne sont pas les artistes qui nous payent. Ça n'a pas de sens. Vous travaillez dans une télévision nationale et vous allez attendre des...
Le passage était gratuit à la télévision.
Absolument, absolument gratuit. Il y a des artistes qui réclamaient quelque chose pour pouvoir couvrir certains frais, par exemple le transport des instruments ou je sais pas moi leur collation. La maison sortait de l'argent pour cela, mais d'une manière systématique on ne payait pas. La plupart venaient pour le plaisir de présenter leur programme et de se faire connaître.
Comment étaient vos relations avec les autres musiciens?
Excellente.
Taboulay, Grand Calé.
J'ai fait énormément d'émissions avec Taboulay.
Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de jalousie du fait que vous étiez très 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 proche de Franco?
Pas du tout. Du tout. Les téléspectateurs se rappelleront par exemple l'émission Zaïre numéro 1 au cours de laquelle je mariais pratiquement Billy Abel
à Taboulay.
Ça n'a pas choqué Franco. Au contraire, quelques temps après, c'est Mamou que je présentais à la télé, à la grande satisfaction de tous les téléspectateurs.
On dit que vous êtes notre Michel Drucker. Michel Drucker, c'est animateur français.
Je connais très bien. Mm-hmm. Je connais très bien.
Vous avez déjà entendu des gens dire ça?
Oui, et lui le sait.
Ah, il le sait?
Lui et Michel Drucker le sait aussi.
Ok.
Nous avons fait des photos ensemble à Cannes, au festival de Cannes. Il avait entendu parler de moi. Bon, voilà, nous avons fait connaissance. On a eu une très très longue conversation professionnelle. Je connais Drucker comme je connais Johnny Hallyday, comme je connais Sylvie Vartan, comme je connais James Brown, comme je connais pas mal d'artistes que j'ai rencontrés dans ma vie. énormément.
C'est un beau métier, hein, le journalisme.
Oui, c'est le métier qui vous rapproche de tout le monde.
Mais comment vous faisiez pour avoir ce succès-là, Bédouard Loukoukou?
Eh bien, pour avoir ce succès-là, il faut s'oublier. Il faut s'oublier et mettre en valeur l'autre, c'est-à-dire celui qui est devant vous. Si c'est Franco, eh bien c'est Franco que je mets en valeur. Je m'oublie complètement. Parce que, à la fin de compte, si il est bien reçu par le public, si la réaction est positive, elle rejaillit automatiquement sur le présentateur. Voilà, je crois que...
C'est ça, juste ça le petit secret.
C'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre secret. Alors, par rapport aux téléspectateurs, il faut bien se présenter et pas agresser les téléspectateurs. On ne va pas là-bas pour...
C'est-à-dire quoi, agresser les téléspectateurs?
Non,
par l'accoutrement.
Par l'accoutrement, par le langage. Ça ne sert absolument à rien. Nous entrons chez eux par effraction. La moindre des choses, c'est d'être un peu poli, non?
Et c'est ça que vous faisiez. Vous étiez toujours tiré à quatre épingles, bien habillé.
Et un langage décent.
Vous aviez un habilleur, quelqu'un que vous habillez, ou bien c'était vos vêtements à vous?
Non, je dois avouer que j'avais un tailleur qui m'adorait, un portugais, comme par hasard. C'était le portugais Viana. Il trouvait que j'avais le corps qui...
Le mannequin.
Vous n'êtes pas le dire. Et il avait décidé de m'habiller. Et à un moment donné, bon, écoutez, on ne refuse pas ce genre de choses.
Très élégant.
Cela va de soi pour la
ça
profession.
Ça ne vous a pas créé des ennuis?
Quelquefois, oui.
Expliquez-nous.
Ben écoutez, la télévision... C'est un média formidable, terrible, terrible aussi, parce que vous ne savez pas ce que les gens pensent effectivement de vous. Je me rappelle d'un ami, disons une connaissance, qui était un fanatique de la télévision nationale, qui me disait, chaque fois que tu viens à la télé, que tu dois présenter une émission, je ferme les autres postes dans la maison, je prends la télévision, je la mets dans ma chambre. Je n'accepte pas que ma femme puisse te regarder. Voilà.
Alors, vous avez rencontré beaucoup de musiciens, les grands musiciens. Pour vous, qui est ce musicien que vous allez plus marquer?
Écoutez, ce n'est pas parce que Franco est mon ami, mais Franco est le musicien qui a marqué son temps. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République ait décidé de l'élever au rang d'immortel. Parce que, prenez n'importe laquelle de ses chansons, en dehors de certaines bizarreries qu'il a produites, c'est un chansonnier, c'est un griot. C'est quelqu'un qui apporte
qui
un
peignait les réalités de la société.
Voilà, exactement. Et cela, il est pratiquement le seul. Si on me demandait de donner mon avis sur Taboulé, par exemple, je vous dirais que Taboulé est un très grand musicien, mais qui n'a chanté que la femme. Et il aurait été difficile à me contredire, parce que effectivement, dans le monde, Taboulé est reconnu comme étant le chanteur qui a chanté le plus de femmes. L'amour pour lui, c'était primordial. Tandis que Franco, lui, c'est le problème du voisin.
Il était partout, politique, société, les femmes aussi, bizarrerie comme vous avez dit aussi, ça c'était Franco.
Oui.
Et quelle est sa chanson que vous allez plus marquer?
Ouf,
répertoire.
Il n'y a pas une chanson, il y a plusieurs chansons. C'est comme si vous lisez les fables de La Fontaine. Toute la littérature de Jean de La Fontaine est une littérature qui interpelle. Tout, il en est de même de Franco, tout, pratiquement tout, c'est le problème du voisin, c'est aussi le problème politique.
Et si je devais vous dédier une chanson de Franco, laquelle vous aimeriez?
Ma tata et moi, si la mobali et si la caté.
Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, ça continue.
Voilà. Et que, par conséquent, les hommes doivent aimer leur femme. Parce que c'est avec sa femme que l'on fonde une nation. Sans la femme, on n'est plus.
La femme est très importante pour l'homme.
Très, très importante.
Elle crée la stabilité dans le foyer.
Oui. Quand elle veut, elle peut assurer la stabilité dans le foyer. Moi, je suis marié depuis 55 ans.
Bravo.
Tous mes enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants n'ont connu qu'une mère.
Donc les 17, vous les avez faits avec une seule femme.
Les 17, je les ai faits, voilà.
On va écouter un extrait de la chanson « Matata Masina Mobali » de Franco. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Oh, na sali nino, zende la mwana moninga o zinga na pasi. Bande langa na tangwa likambo mamwa. Bande langa isoki na siliki. Mwasi alinga ka presence ya mobali. Oh, tunga bola fonte. Mabe ebani na yo, bena maye. Loko la bato baye bitolu ka ikiliko. Zende la mwana ya batoi. Bande la mwana ya batoi. Oh, na salini tu. Zende la mwana moninga o zinga na pasi. Bande langa na tangwa likambo bamona. Bande langa isoki na siliki. Mwase alinga ka presence ya mobalie. Oh, toka bola fote. Mame ebani na yo, benanga ye. Toko la bato baye bitolu ka ekiriba. Zende la mwana ya batoi. Bande la mwana ya batoi. Oh, na salini yo. Zende la mwana moninga o zinga na pasi. Bande langa na tangwa likambo bamona. Bande langa isoki na siliki. Mwase alinga ka presence ya mobalie. Oh, toka bola fonte. Mame ebani na yo, benanga ye. Toko la bato baye bitolu ka ekirimo. Zende la mwana ya batoi. Bande la mwana ya batoi.
Bango bali ya kabala taka Bisombula momiba patalo moko na nzoto Oh mama
Matata ya mwasi na mobali Sila tela mokili mama Mama Oh mama 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 Oh mama
Mama abotinga imwasi Oya konyo kolonga imwasi Zamba pesinga yetumbu Napota kabasi bande kompanyo kolobana ya bato Nayo kamote mapasi bande ko oh 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 mama Oh mama 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 mama
Matata ya mwasi na mobali sila tela mokili mama mama Oh mama 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 Oh mama
Soki abimi azongi kotune paya uzite Soki o kende ki kotrete pa fero le vio zonga olia opema Akomi kontu na yo
Uti wapi
Ozala ki wapi o uti wapi Baroka ki boye Mwasi na bala na mosoro Nani apesi e autorizasyon Atu ne pe na uti pande kongo Oh 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 mama Oh mama 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 mama
Matata ya mwasi na mobane si la tela mwote mama Oh mama, 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 oh mama.
Ikambonini atamo lata kanda mwali puta eva konsakayo. Ito tomo nakambwale. Oh mama, 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 mama.
Matata ya mwasi na mwale, si batela mwakili mama, mama. Oh
basa bandeko Vino basi basi bandeko Vino de bokon ponto biso Vino bokon pokolo biso Vino mokon bokon bala biso Vino mokon bokon nyokolo biso Soko salanini bandeko O balani ona mobali Matata mikolo yo sonandako bandeko Kona nini boye Oh mama 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 mama
Le grand témoin.
Je rappelle aux auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment que nous recevons Benoît Lukunku Sampou, un grand animateur des émissions de variété musicale que vous avez connu à la télévision nationale congolaise dans les années 70, 80 et 90. Monsieur Lukunku, cette grande interview que vous avez réalisée avec Franco avant sa mort, c'était un scoop. Et quand l'interview passait à la télévision, tout le monde était...
tétanisé.
Oui, voilà, tétanisé en voyant l'aspect des Franco.
Oui.
Comment vous avez fait pour obtenir cette interview?
J'étais à Bruxelles pour le mariage de ma fille, de l'une de mes filles. Quand je rencontre Mazenza, qui était son impresario, je lui demande les nouvelles du maître. Il me dit que Franco était très malade. Alors je lui dis, mais est-ce que je peux le voir? Il dit, oh, je ne pense pas que tu puisses le voir parce qu'il n'accepte pas. De sortir en public, mais je vais quand même lui dire que vous êtes là. Dites-lui que je suis à telle adresse, à tel endroit. Et nous nous sommes quittés. Je n'avais aucun espoir de voir Franco. Tel que me l'avait décrit Mazenza, il était inimaginable qu'il puisse se déplacer. Mm-hmm. Mais qu'elle n'a pas été
mais surprise. C'était, ça remontait à quand, la dernière fois que vous l'avez vu avant de rencontrer son impresario en Belgique?
Ça remonté à 2 ans, je crois, 1 an ou 2 ans, parce qu'il est resté 2 ans pour ses soins en Europe avant de nous quitter. Le lendemain du jour où j'ai rencontré Mazenza, je crois, 1 ou 2 jours après, quelle surprise, quelqu'un toque à la maison, j'ouvre, c'est Franco. Donc il s'était déplacé
pour venir
me voir. Quand j'ai vu son état, tout de suite, le déclic, il faut faire quelque chose. Il s'est assis, nous avons parlé des choses et d'autres. Et
le fait qu'il se soit déplacé pour venir vers vous, ça veut dire que vous représentiez quand même quelque chose.
Absolument.
Vous étiez très important à ses yeux.
Je crois. Et c'est pour ça que chaque fois, j'en parle avec beaucoup d'émotion. C'est parce qu'il a manifesté son amour de ce Lukunku Sampou qui était parfois son bourreau à la télévision. Je lui ai posé la question, savoir s'il acceptait... qu'on fasse une interview, sans arrière-pensée. Ben, il y avait une arrière-pensée en moi. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il soit réduit à cette
passe, Et puis, il y avait beaucoup de rumeurs sur son état de santé.
C'est ça. Alors, il a accepté. Il dit, non, quand tu veux. Mais laisse-moi le temps d'aller à Paris voir mon médecin. Parce que je dis, écoutez, d'accord, quand tu seras disponible, on fera l'interview. 2 semaines après, je reçois un coup de fil. C'est lui. Il dit, voilà, je suis en voiture sur la route de Bruxelles, de Paris-Bruxelles. Est-ce qu'on peut faire l'interview aujourd'hui? Je dis, écoutez, laissez-moi le temps de poser la question à gauche et à droite pour...
de vous préparer.
J'ai appelé la RTBF, qui a accepté tout de suite de me donner un studio.
Vous travaillez avec la RTBF de temps en temps?
Oui, j'étais très connu là-bas.
Okay.
J'ai fait un stage en Belgique. Ils ont accepté de préparer un studio et du matériel technique. Il était 10 heures lorsqu'il m'avait téléphoné. Je crois que 3 ou 4 heures après, il m'a encore appelé pour me dire « Je suis à Bruxelles ». Je lui ai dit « Viens directement à la RTB ». Entre-temps, je suis passé à l'ambassade, prévenir l'ambassadeur. Lui dire que j'avais besoin d'un peu d'argent pour l'équipe. Il m'a donné 40 000 francs belges à cette époque-là pour les préparatifs de l'émission, mais il n'y croyait pas parce qu'il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de chaînes
qui ont tenté de faire une interview avec lui.
Oui, alors, Franco est arrivé là-bas, on l'a reçu, on nous a donné un endroit où faire notre interview et on a fait cette interview. Voilà, difficilement, mais on l'a fait.
Et pendant combien d'heures comme ça?
Ça a duré près de 4 heures pour...
4 heures malgré son état, il parlait...
Oui, on interrompait. Mm-hmm. On interrompait quand il commençait par exemple à tousser très fort. Ouais, il avait des quintes de toux. Alors là, on arrêtait, il se reposait un peu, il buvait de l'eau, puis on revenait.
C'est très dur aussi pour vous réaliser cette interview.
Très, très, très dur. Enfin voilà, alors après se sont présentés les gens de qui étaient là, je ne sais pas comment ils ont su que Franco allait être interviewé par un autre journaliste congolais. Ils ont tenté de m'arracher l'interview, de me l'acheter, c'est ce que je veux dire. J'ai dit non, écoutez, je ne peux pas vendre cette histoire, c'est une interview qui appartient.
C'était une exclusivité, le concours.
Non, c'est pas une exclusivité, mais c'était une exclusivité RTNC.
Mais grâce à vous.
C'est normal, je travaillais dans la boîte.
Ben oui.
Oui. Le PDG de l'époque.
Un autre journaliste de la RTNC pouvait aller là-bas pour demander, peut-être qu'il n'obtiendrait pas cette interview.
Non, mais il y en a beaucoup qui ont tenté et qui n'ont pas réussi.
Voilà, c'est pourquoi je dis grâce à vous.
Ben voilà, c'est dans ces conditions-là que j'ai réalisé cette interview, que je considère comme un cadeau personnel. Que Franco m'a fait, parce que 2 mois après, il est mort.
C'était un choc.
C'était
dans
choqué,
la disparition
mais
de
je
ce grand de la musique. Donc vous êtes préparé déjà.
Oui, oui. Sur le plan psychique, j'étais préparé. Je pressentais. Je ne le souhaitais pas, mais je pressentais qu'il arriverait quelque chose. Et si il est encore vivant aujourd'hui, je n'aurais jamais diffusé cette interview.
Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la diplomatie. Pourquoi vous avez quitté le monde musical? Pourquoi vous avez abandonné le micro?
Non, je n'ai pas abandonné le micro. La preuve, c'est que je suis devant un micro. Et puis
c'est moi qui vous pose des questions.
Non, mais j'ai répondu à beaucoup d'interviews. J'ai fait déjà 2 ou 3 émissions de variété avec l'équipe SEMS.
SEMS CT,
mm-hmm. De Jean-Claude
Yalé.
J'ai fait pas mal, depuis que je suis parti d'ici, j'ai fait pas mal d'émissions à la télé.
Oui, mais comment vous êtes retrouvé dans la diplomatie?
Bien, la diplomatie est venue simplement parce qu'à un moment donné, nous étions pratiquement tous les anciens, un peu découragés de l'état de notre entreprise. Moi, j'évoluais...
De la RTNC.
J'évoluais pour mon émission dans le studio Mamangebi. C'est un studio qui avait à cette époque-là 5 caméras. Sur les 5 caméras, il n'en restait plus que 2. Il faisait horriblement chaud pour y travailler. Les conditions étaient devenues tellement mauvaises que l'ensemble de la grille de programme avait pris un coup. Avec l'arrivée de l'AFDEL, on m'a demandé de m'occuper d'une direction culturelle à l'AFDEL. Je suis allé à l'AFDEL avec maman Agathe Moulimbi. Et depuis lors, Samba Caputo, qui était l'un des directeurs de l'AFDEL, est passé aux affaires étrangères. Et aux affaires étrangères, lorsque je lui ai posé le problème de l'instabilité d'emploi qui commençait à régner un tout petit peu à l'AFDEL, parce que l'AFDEL commençait à opérer une mue dans laquelle je ne me retrouvais pas. Alors, il en a parlé à Yerodia, qui était le ministre d'État chargé des affaires étrangères, qui me connaissait par le nom. Il a voulu me rencontrer, il m'a interviewé et il m'a demandé de commencer à travailler immédiatement. Donc après l'interview, j'ai commencé à travailler.
À travailler?
Oui.
Aux affaires étrangères?
Aux affaires étrangères, au cabinet du ministre d'État. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la profession avait quelque part... entamer ma santé. D'abord, rester sous le projecteur pendant pratiquement 20 ans, c'était assez dur. Et ensuite, il y a le problème des yeux.
Oui.
Et enfin, il y a le problème important, primordial, auquel les gens ne pensent pas, c'est la nourriture. Il faut équilibrer son alimentation. Si moi je tiens le coup un tout petit peu aujourd'hui, les gens trouvent que le temps ne passe pas assez durement sur moi, eh bien c'est simplement parce que je fais attention
à votre alimentation.
À mon alimentation. J'ai commencé à faire des crises suivies de diabète le ministre d'État, qui est un médecin, il m'a dit, mais monsieur Boukoukou, on n'a qu'un seul corps. Ce en quoi il rejoignait Taboulay, nous autres au Kakao Moko. Il m'a dit, choisis le pays où tu veux aller pour
te faire soigner.
Te faire soigner. J'ai choisi le Portugal, parce que j'avais déjà été au Portugal une fois, le pays m'avait plu. J'ai choisi d'aller au Portugal, et je suis au Portugal.
Vous êtes allé là-bas pour vous faire soigner ou pour travailler?
Je suis allé là-bas, dans le cadre
de votre travail.
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que vous regrettez n'avoir pas fait dans votre métier de chroniqueur musical, Benoît Loukoukou?
Là, il y a une précision à apporter que je ne manque pas chaque fois que je me trouve devant un journaliste. Moi, je ne suis pas chroniqueur musical.
Vous êtes?
Je suis présentateur d'émission musicale.
C'est quoi la différence?
Quand on dit la différence, Michel Drucker est à la fois chroniqueur, c'est-à-dire qu'il va en profondeur dans l'étude des sujets qu'il traite, et il les présente lui-même à la télévision. Tandis que chez nous, il y avait une équipe de chroniqueurs, dont Manda Chebwa, Kalon Jingoy, qui, franchement, allait à la chasse, comme on dit, ou bien à la recherche de champignons comestibles. Et c'est ainsi qu'on a trouvé les Bella Bella, il y a pas mal d'artistes jeunes qui ont été découverts par ces chroniqueurs. Et quand nous sentions que l'artiste était mûr, le jeune était mûr, il était bon, Wemba bon, etc., on prenait cet artiste pour l'émission de variété, télé, cabaret, Kim Kiesse, télé show, variété samedi soir, value numéro.
Et donc vous n'alliez pas en profondeur, vous c'était superficiel.
Non, pas superficiel. Lorsque l'artiste venait chez moi,
je connaissais qu'il était déjà mature, mûr.
Il était mature, je le connaissais.
Affronter ou répondre à vos questions.
Voilà.
Benoît Loukoukou, nous sommes presque à la fin, je dirais à la fin de notre entretien. Un mot à tous ces auditeurs des Radio Capi qui se posaient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Certains disaient même que vous étiez mort.
Oui.
Vous leur dites quoi?
Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. Les gens croient, il y en a qui me touchent. Quand ils m'aperçoivent, ils ne se gênent pas, ils viennent à moi, ils me touchent, je dis voilà. Oh, mais donc vous êtes vivant, je dis oui, c'est vrai, vous n'avez pas affaire à un fantôme. C'est le concours sans plus. Nous avons un problème, c'est l'agression contre notre pays. La seule façon, à mon avis, de gagner, c'est d'être solidaire. Et pour être solidaire, il faut aimer.
Aimer son pays?
Non, aimer son prochain. Parce que si vous aimez votre prochain et qu'il aime son prochain, c'est toute la nation qui s'aime et qui peut se défendre parce qu'il y a unité de pensée.
Et là, c'est le diplomate qui parle?
Oui, absolument.
Le présentateur?
Non, c'est...
L'ancien présentateur des émissions musicales.
C'est l'homme des médias, l'homme de la communication qui après un parcours, bientôt je vais fêter mes 75 ans, après un si long parcours, estime que nous n'avons que l'amour pour nous sauver.
Benoît Loukoukou Sampo, je vous remercie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous dans cette émission.
Je l'espère bien.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Benoît Loukoukou Sampou, célèbre présentateur des émissions de variété musicale qui a émerveillé les téléspectateurs dans les années 70, 80 et 90. Aujourd'hui, il est diplomate congolais au Portugal. Merci à Jean-Noël Mokondo et Mimi Kindou qui est à la technique. Au micro, Kelly Nkouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.